Qu'est-ce que l'homme ? C'est intitulé de l'ensemble de nos conférences, traduit les préoccupations de notre temps et l'inscription de notre raison dans les problèmes anthropologiques. Le 19e siècle a été le siècle de l'historicisme, issu lui-même de la conscience historiographique du siècle des Lumières. Le 20e siècle est le temps d'une attention renouvelée à l'humain, même si celui-ci n'est plus le sujet triomphant, vénéré, adoré, le sujet qui occupe la place privilégiée du roi, le moment de la domination souveraine, mais l'homme, souvent déchiré, mutilé, déchiqueté, rompu dans son unité, dans son identité, au cours de cette immense histoire, celle que pensent, depuis Nicolas Machiavel et la politique humaniste, les conseillers du prince, ou encore, depuis Vico et Hegel, les ingénieurs du devenir ou les confidents de la providence. Aujourd'hui, les philosophes de l'école de Francfort, par exemple, le rappellent opportunément, il y a tout autant à apprendre dans les discours de la mutilation de l'homme que dans ceux de sa réalisation pour faire de l'anthropologie. Le discours de l'inhumain ou le discours de l'anti-humain est aussi utile à la compréhension de l'homme que le discours éthique, moral, ou que le discours de la réalisation de l'humain dans un bonheur. La phrase de Paul Valéry, selon laquelle toute politique défend finalement une certaine idée de l'homme, cette phrase est d'une actualité cruelle. Ayant à traiter du problème de l'homme d'un point de vue philosophique, ayant à répondre à la mise en demeure « qu'est-ce que l'homme ?», je pense rappeler qu'une philosophie de l'homme ou qu'une anthropologie philosophique ne peut pas éviter un dépassement de l'humain dans de grandes idées de totalité, dans des motifs qui assignent la réalité humaine tout entière sur son origine et ses fins. Au fond, il n'est pas question de l'homme en philosophie sans la possibilité d'aborder le problème de son origine et de sa destination. Car que dire d'autre sur l'homme que se prononcer ou se risquer sur cette origine, sur cette destinée? Même les philosophes du XIXe siècle, philosophes de l'histoire ou philosophes de l'immanence, en dernière instance, ne cessent pas de se prononcer sur l'origine, la fin, la destinée de l'homme. Quand Marx écrit dans le manifeste de 1848 que l'histoire entière de l'humanité a été celle de la lutte des classes, il opère ce dépassement d'une stricte anthropologie expérimentale ou observationnelle au profit d'une vision de l'humain qui coïncide avec une ontologie matérialiste, elle-même dirigée par un postulat matérialiste et immanentiste global. Quand Jean-Jacques Rousseau pose cet axiome d'interprétation de toutes les manifestations de la vie humaine en société, l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt, il opère également ce dépassement de l'humain, de ce que j'appellerais l'humain tel qu'il est donné à l'humain tel qu'il est prescrit par une grande idée de totalité qui exprime le devenir complet de l'histoire de l'homme. On pourrait en dire autant pour la loi des trois états d'Auguste Comte ou pour le tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet ou encore pour les formules classiques sur l'homme raisonnable, l'homme animal politique, l'homme animal doué de raison ou l'homme animal capable d'amitié proposé dans l'Antiquité. L'anthropologie est toujours une anthropologie, c'est-à-dire un discours qui prend obligatoirement l'homme dans les filets supra-théoriques d'une idée transcendantale de totalité, d'une vue ontologique du tout dont procède nécessairement la réalité humaine. Dès 1927, dans Sein und Zeit, Heidegger craignait qu'un discours tenu sur l'homme ou sur la réalité humaine, l'être là, l'existant, ne retombe facilement dans la dimension inessentielle de l'ontique, opposée à l'ontologique. Et on sait que la retombée dans l'analyse ontique, inessentielle, est l'un des reproches adressés à Sartre par Heidegger lors de la publication de L'être et le néant et de la diffusion des thèmes de l'existentialisme et de la phénoménologie dans les pays de langue française dans les années 1945-1950. La célèbre lettre sur l'humanisme, lettre à Jean Beaufret, contient une réfutation en règle de l'idée sartrienne de l'homme et de l'existant humain, Heidegger proposant à l'issue de sa propre enquête anthropologique l'homme comme berger de l'être, entièrement défini par la garde ou la sauvegarde de la parole de l'être et par la manifestation temporale de ce fondement initial et total de toute existence. Sans entrer dans le détail de cette opposition entre la philosophie heideggerienne et la philosophie de la liberté défendue par Sartre, je crois pouvoir poser cependant qu'il est impossible à un discours philosophique de retomber entièrement dans l'analyse du fait ou dans ce que Heidegger appelle l'analyse ontique. Les idées de totalité sont en philosophie inévitables et nécessaires. Elles concernent l'homme entier, toute saisie d'un fait humain particulier, d'un comportement humain local ou partiel, en appel à une essence de l'homme, à sa destination ultime. L'observateur ne se fait pas simplement anthropologue de la structure ou de la forme de telle activité humaine, mais il saisit nécessairement l'origine, la fin et la raison d'être de l'analyse effectuée par l'anthropologue n'est peut-être pas très différente de cette raison si souvent invoquée par André Malraux, l'homme est le seul être qui sait qu'il doit mourir, donc pour l'homme, la question du sens ne peut pas être mise entre crochets et facilement oubliée. L'homme se dit en grec anthropos. C'est le mot qui a donné naissance à la plupart des termes qui en français servent à désigner les disciplines étudiant théoriquement l'homme, anthropologie, anthropométrie, etc. On a même un terme français anthropocentrique. On parle par exemple d'humanisme anthropocentrique. L'humanisme anthropocentrique, c'est l'humanisme qui prend l'homme pour centre, et ceci indépendamment de toute référence à Dieu ou de toute référence à une origine transcendante. Heidegger dit expressément dans une note de son texte « L'époque des conceptions du monde » que l'anthropologie ne peut jamais être une pure enquête portant sur ce que serait l'homme. L'anthropologie est une interprétation de l'homme qui, au fond, sait déjà ce qu'est l'homme et ne peut par conséquent jamais se demander qui est l'homme. Par une telle façon de poser la question « qu'est-ce que l'homme ?», l'anthropologie devrait en effet se reconnaître elle-même comme bouleversée et dépassée. Or, comment pourrait-on attendre une telle chose de l'anthropologie alors que celle-ci n'a expressément pour tâche que la consolidation après coup de la certitude de soi, du sujet, du subjectum, du « je pense » d'origine cartésienne. Heidegger assigne ici la place historique et importante de l'anthropologie dans notre philosophie occidentale. Celle-ci vient étymologiquement de l'anthropos grec, mais l'anthropologie reçoit de la philosophie moderne sa vérité première, son principe de certitude, de même que sa méthodologie fondamentale, tout ceci étant permis, rendu possible par la problématique du grand rationalisme et par la pensée humaniste, par Descartes et son ego cogito, par Montaigne et sa conception humaniste de la totalité de la vie et de l'existence. L'anthropologie ne fait donc, à la suite de cette certitude de soi de l'humanisme, que consolider la problématique de fond de la pensée humaniste et rationaliste. D'un côté, la moderne liberté, capacité absolue de décision, origine de tous les actes, et même de cette décision fondamentale de douter, qui est pour Descartes le point de départ de la philosophie. De l'autre, le pouvoir de la pensée théorique qui ramène les temps à une objectivité précise, là, placé devant moi, sujet théorique, moi pensant. Il existe une autre parole prononcée bien avant sur l'homme et qui contient le mot grec anthropos, le célèbre anthropos metron de la pensée sophistique à l'époque de Socrate et de Platon. L'homme est la mesure de toute chose, de l'existence de celle qui existe et de la non-existence de celle qui n'existe pas. Voilà une autre parole dite sur l'homme, anthropos, et qui relève du fond grec, du mode grec d'advenance de la vérité. Cette parole est-elle une façon de prévenir de quelque façon la pensée de l'humanisme ou du rationalisme, du moi-pensant? Martin Heidegger traduit ainsi la formule de Protagoras: de toute chose, l'homme est la mesure. De celles qui sont, qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, qu'elles ne sont pas. La phrase de Protagoras nous est rapportée dans le dialogue de Platon intitulé « Le Théétète ». Ce dialogue est consacré au problème philosophique de la connaissance et de la vérité. On y voit Socrate affronter le grand défi de la pensée sophistique et la formule sophistique de la vérité. L'homme, anthropos, est la mesure ultime. Dans son livre des lois, Platon reprend la formule de Protagoras et dit « Non, ce n'est pas l'homme qui doit être la mesure de toute chose, mais c'est Dieu qui est cette mesure. » Alors la mesure du vrai semble déportée par Platon dans un horizon transcendant, ce qui donne sens au discours humain « C'est Dieu, plénitude de sens de la vérité. » Mais chez Platon, cette solution est terminale, finale. Dans le dialogue « Théétète », Platon essaie de formuler la théorie sophistique de la connaissance et de lui donner une réponse à ce plan unique de la connaissance. En effet, la formule de Protagoras aboutit à remettre à l'homme sujet, à l'individu, la signification de la vérité. C'est désormais l'anthropos, le sujet seul, l'individu, l'ego, qui est la mesure du vrai. Protagoras s'appuyait pour défendre cette conception sur la conception mobiliste de l'être qui avait été proposée par Héraclite et sur l'idée du changement perpétuel qui caractérise les phénomènes. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout change. Il se fondait ainsi sur le relativisme de la chose perçue et sentie. Être, c'est être senti par un sujet. Être, c'est être senti par un moi, par un individu. Telle te paraît la chose présente là devant toi, telle elle est pour toi. Le miel te paraît sucré, ainsi il est sucré pour toi. On est presque à l'aurore du scepticisme. Socrate faisait remarquer dans le Théétète que cet argument de Protagoras est lui-même soumis à certaines limites. En effet, l'homme Protagoras est lui-même un homme parmi d'autres. Et anthropos, homme, nous le sommes également, nous. Nous aussi, nous avons un contrôle sur le vrai, sur le discours vrai dans son ensemble, car nous sommes hommes, nous aussi. Il y a donc une limite au glissement immodéré du vrai vers le relativisme intégral. Si l'individu Protagoras affirme qu'il est, en tant qu'ego, anthropos, la mesure, métrone du vrai, il faut dire aussi que nous aussi, nous le sommes avec lui en tant que nous sommes des hommes. Et on le voit, le relativisme de Protagoras se détruit en tant que nous constatons qu'il y a une nature des hommes, des êtres semblables qui ont des sensations et qui vont penser sur ces sensations et qui vont en tirer des idées générales, des concepts. Il ne faudrait toutefois pas interpréter l'anthropos de la formule sophistique comme un lointain ancêtre de l'homme au sens humaniste ou de l'homme au sens de l'ego cogito cartésien. Le sophiste n'est ni un humaniste avant l'heure, ni une sorte de précurseur du rationalisme. L'anthropos métrone, grec, fonctionne dans ce que Heidegger nomme le mode grec du vrai, ou le mode d'advenance grec du vrai. Il relève de la présupposition grecque de l'étant enclos en sa vérité. L'anthropos grec est, dans la formule de Protagoras, l'individu mortel, provoqué au vrai par la vérité des étangs. Chaque ego, chaque individu, comme le dit Heidegger, séjourne dans le cercle du dévoilé qui lui est donné ou dévolu à lui, ego, individu, comme étant celui-ci, ici et maintenant, face à un étang. L'entente du présent, la compréhension de l'étang dans le présent, a son fondement dans ce séjour à l'intérieur du cercle du dévoilé. Ainsi, l'homme, l'anthropos métrone de Protagoras, l'ego qui entend l'étang, qui le comprend, est défini par son appartenance au monde, par le maintien dans le séjour du monde, par la relation au présent ouvert, appartenance du moi au présent de ce qui est. L'anthropos de Protagoras, mesure du vrai, n'est pas le sujet pensant, le moi humaniste, le moi condition a priori de possibilité de l'expérience au sens de Kant. L'ego sophistique, mesure, n'est que le support d'une pensée qui est adhésion à l'être et qui n'existe que par cette différence constitutive. La formule de Parménide, c'est une seule et même chose que être et penser, pourrait très bien servir pour définir ou montrer cette ambiance grecque de la vérité et la vocation qui, de ce fait, est remise à l'homme. Depuis Kant, nous sommes habitués à considérer l'homme, le sujet, comme le formateur unique de toute connaissance de monde et de toute objectivité. Le projet de l'objectivité est remis à l'homme. L'objet, c'est ce qui est placé devant un sujet, Gegenstand. Tout degré de formalisation appartient en droit à l'homme en tant qu'il est un esprit pensant. L'anthropos grec est bien plutôt celui qui, séjournant dans l'entente de l'étang, comprend toute chose à la mesure de son être présent. Cet être présent, c'est la chose de la nature, physis, en tant qu'elle se montre comme matière, forme, substance ou composée de forme et de matière. À cette parole grecque sur l'homme s'oppose la parole plus proche de nous qui est la parole médiévale sur l'homme naturel et surnaturel. Dans le motif ou la présupposition de la pensée byzantine, l'homme n'a pas d'essence terrestre. Il n'existe véritablement que pour l'univers surnaturel, que pour et en vue de ces choses d'en haut, là où se situe l'origine. La vie sur terre est alors une épreuve et l'existence temporelle finie une réalité seconde et inessentielle. La doctrine médiévale latine n'a pas retenu l'intuition des pères grecs et leur théorie de la théosis. Elle a préféré diviser l'homme en deux vocations, l'une purement naturelle, la vocation terrestre, être membre de cette cité, de ce groupe humain, de ce pays, fonder selon les liens humains une famille, et l'autre ordre, l'ordre surnaturel, à savoir rencontrer le Dieu vivant, le servir, le connaître comme la fin suprême de l'existence, voir en Dieu celui qui seul mérite d'être servi absolument dans la vocation monastique, par exemple. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le texte qui a fondé, par exemple, toute la spiritualité bénédictine. La théologie du Moyen-Âge réussissait à concilier les deux voies et les deux vocations, les deux dimensions de l'existence humaine, en subordonnant le terrestre à la grâce, le naturel au surnaturel. La grâce ne contredit pas la nature, mais elle est ce qui la complète et l'achève. L'univers de la grâce vient donc se placer en accomplissement au-dessus de la nature pour lui donner un achèvement. L'anthropos, au sens grec, n'existe que dans la seule dimension de la présence de l'étant comme tel, matière, forme, unité substantielle des deux, et l'anthropologie grecque n'est jamais bidimensionnelle ou multidimensionnelle, même quand, avec Platon, elle s'unit au thème orphique et pythagoricien de la découverte de l'âme et du salut de l'âme. Avec la pensée médiévale, l'homme se trouve placé dans le système nature-grâce avec deux buts, deux vocations, deux destinées. La première relevant en droit de l'intelligence et de la raison naturelle. La seconde étant connue par la foi, par la voie d'une révélation surnaturelle. Coexistent ainsi dans l'esprit médiéval les biens immanents de l'homme terrestre et de la cité historique et les biens supérieurs surnaturels, fins ultimes et bien transcendants, qui sont les plus préférables, qui sont ceux que l'homme doit croire, auxquels il doit adhérer dans l'acte de foi surnaturelle. Mais ce système nature-grâce qui est entré en crise dès le XVIe siècle avec l'humanisme rationaliste et naturaliste, avec l'illuminisme des théologiens anabaptistes et avec la doctrine des réformateurs, Luther, Zwingli, Calvin, ce système nature-grâce n'a pas montré, en ce sens, qu'il était capable de résister à la poussée de l'homme occidental, de l'humanisme indépendant, autonome, qu'il impliquait, qu'il contenait, qu'il a réussi à contenir au XIIIe siècle, mais qui a éclaté dès la fin du XIVe siècle et qui s'est répandu en Occident pendant tout le XVe siècle. La réforme protestante tente à expliquer l'homme tout autrement que le catholicisme romain, dans sa théorie des deux règnes ou dans la conception nature-grâce. Du point de vue de Calvin, et ici je me réfère à l'institution chrétienne, au livre 3, et en particulier au chapitre 1 à 18, qui correspondent à l'éthique de Calvin, l'homme n'appartient jamais à deux domaines distincts, dont l'un relèverait de la seule nature et serait entendu par la raison naturelle, tandis que l'autre serait celui de la grâce, monde supérieur de la foi, conférant à la réalité humaine sa vocation et sa destination ultime. L'homme de la réforme calviniste radicalise en un sens la grande vision augustinienne de l'antagonisme des deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu, et ceci au profit de la seule cité de Dieu dont l'homme régénéré par grâce est le bienheureux citoyen. Alors que la philosophie humaniste, issue des deux renaissances et du rationalisme, se dirige progressivement vers la crise de la conscience européenne, le relativisme, le doute, l'historicisme qui va triompher au XIXe siècle. Tout est historique, tout est relatif à l'histoire, tout est dans l'histoire. À l'inverse de ces courants, la philosophie de la réforme insiste sur l'unique origine de l'homme, l'appartenance essentielle de l'homme à Dieu, la définition a priori donnée à la nature humaine à partir de son unique origine. De ce fait, la réformation joue à fond le sens du fondement biblique de l'existence où Dieu est le premier et où tout être temporel fini dérive de lui, source unique. Au fond de l'argumentation réformée, au principe de cette argumentation, il y a la doctrine biblique de Dieu, de la création ex nihilo de l'univers et de tout ce qui existe, de la formation de l'homme en image de Dieu, de la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu en toute histoire, l'histoire du salut étant comprise dans cette histoire, ainsi que tous les actes rédempteurs et sauveurs de Dieu. Il s'agit, Si l'on veut expliquer cette attitude philosophique d'une confession stricte, logique, nécessaire, du premier verset de la Bible ou du premier article du Credo qui règle le développement de la totalité du système biblique, au commencement ou dans le principe, Dieu, l'Éternel, un et multiple, créa, c'est-à-dire tira du néant, le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image. L'anthropos grec existe dans l'ouverture du monde présent, mais il demeure dans toute l'ambiguïté de ce monde, de l'étant vu tantôt comme matière ou forme. L'anthropos sera-t-il l'ego accroché à une pure forme en soi, ou le produit mouvant d'une matière sans fin, sans limite? Apeiron, il est, et Imarmené Tuqué. En second lieu, l'homme médiéval, l'homme de la philosophie thomiste et scotiste, est un être partagé entre une nature et une vocation suprême surnaturelle que définit le terme « grâce ». L'équilibre nature-grâce a été provisoire, précaire, et la fin de l'histoire du Moyen-Âge est marquée par la dislocation du motif nature-grâce, dislocation qui a donné naissance à l'humanisme de la Renaissance italienne. En troisième lieu, l'homme moderne est encore l'homme d'une nature, mais cette nature manque de plus en plus d'une véritable et unique origine, d'une unité de racine, pour utiliser le vocabulaire qui est celui des philosophes hollandais comme Dooyeweerd, Vollenhoven ou Speer. L'unité de racine de l'existence humaine, c'est l'homme, saisi et vu sur son origine. L'homme moderne tend bien sûr à remplacer cette origine par liberté, histoire, lutte des classes, société sans classe, société révolutionnaire où toutes les distances entre les hommes, toutes les aliénations seraient supprimées. Mais ces concepts sont trop souvent le succédané ou les substituts du royaume de Dieu. La divine origine ne tient pas lieu pour l'homme humanisme moderne de sens suprême, mais peut-on imaginer un sens qui soit englobant pour l'homme et qui cependant appartienne au monde? C'est là, je crois, le problème fondamental de l'humanisme moderne. Cet humanisme dont le père de Lubac dit remarquablement bien qu'il est un humanisme exclusif et donc un humanisme inhumain. L'humanisme. J'aimerais encore, en terminant cette conférence, dire quelques mots sur l'humanisme. C'est un mot qui, parfois, dans la philosophie réformée, a mauvaise presse. On se déclare volontiers anti-humaniste et l'on pose volontiers l'humanisme comme le grand responsable de la sécularisation du monde occidental. Et je crois qu'il faut comprendre l'humanisme. On peut comprendre l'humanisme de plusieurs manières. Il y a certainement des formes d'humanisme où l'homme est replié sur une de ses facultés. On peut parler par exemple d'un humanisme de la liberté chez Sartre, mais c'est une liberté qui est elle-même absolutisée, qui est elle-même prise comme l'unique caractéristique de l'existence humaine, comme l'essence de l'homme. Je pense que le mot humanisme peut être utilisé différemment. On peut concevoir un humanisme qui serait véritablement un humanisme intégral. Il ne faut pas oublier, je crois, que l'humanisme surgit en Occident au XVe et au XVIe siècle, au moment certes où se produit la dislocation du motif nature-grâce de la pensée médiévale, mais l'humanisme surgit aussi dans la pensée de gens comme Marcy de Ficin, Erasme, et même le jeune Rabelais, Guillaume Budet, et bien d'autres auteurs encore, dans la redécouverte de la parole de Dieu. Un humaniste comme Erasme, au début du XVIe siècle, ne se conçoit pas sans l'ensemble des thèmes fondamentaux du Nouveau Testament concernant le salut. La proclamation de la réforme, « Vous êtes sauvés par grâce, moyennant la foi », cette proclamation a d'abord été celle des humanistes qui n'hésitait pas à dire, comme Marcille Fissin, l'homme véritable doit quitter le paganisme. De païen, il doit être fait chrétien. L'humanisme de l'école de Florence au XVe siècle est souvent vu sous l'angle d'une sorte d'itinéraire platonicien de l'âme vers Dieu. On oublie trop souvent que cet humanisme était nourri de tous les thèmes du Nouveau Testament, de tout l'enseignement du Nouveau Testament sur le Christ et sur le salut. C'est la raison pour laquelle il y a certainement, dans l'usage que l'on fait de ce mot humanisme et dans la critique de l'humanisme, un certain nombre d'ambiguïtés. Si l'humanisme est la doctrine selon laquelle l'homme n'a pas besoin de Dieu, en ce sens, bien sûr, on peut critiquer l'humanisme, on peut dire que l'humanisme est exclusif. On peut dire que l'humanisme ne voit de sens que dans le monde, dans le projet humain, ou sur le prolongement de tous les actes par lesquels l'homme pose sa propre existence. Mais on peut concevoir l'humanisme sur ses origines. Et comme témoignage historique, je crois que je ne pourrais pas mieux terminer que sur cette magnifique lettre de Gargantua à Pantagruel, le magnifique texte de Rabelais de 1532, qui, je crois, montre bien tout à la fois ce que peut être la foi humaniste et l'information que cette foi humaniste avait à partir des thèmes du Nouveau Testament. Cette lettre de Rabelais, on la commente souvent malheureusement dans l'enseignement secondaire en donnant aux écoliers de seconde à disserter sur le fameux « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et en oubliant que ce fameux « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » s'intègre dans un texte où Rabelais nous montre que le véritable sens de l'humanisme se trouve dans la parole de Dieu, lue, écoutée et obéie. Je pense que, en ce sens, il y a un humanisme chrétien.
Alors, je rappelle la question qui a été posée. Monsieur Probst a marqué une différence dans la philosophie catholique et protestante au moment du Moyen-Âge. La question qui a été posée d'abord, c'est de développer ces différences. Et puis, on a demandé si, sous la forme affirmative, si la Bible n'était quand même pas à la base de la philosophie catholique, contrairement à ce qu'il a semblé à celle qui a posé la question. Et puis la deuxième question, qui est en rapport avec la première, se rapporte à la vision augustinienne des deux cités.
Bon, j'aimerais déjà indiquer, disons, un certain nombre de points d'histoire. Ce qu'on appelle philosophie protestante, ça peut recouvrir des éléments assez différents. Je crois que, en ce qui concerne la philosophie catholique, il n'y a pas d'hésitation. La philosophie catholique, c'est la tradition des pères de l'Église, des pères latins, des pères grecs. Bon, c'est ensuite la philosophie augustinienne, bon, prolongée par Boèce, par Anselme de Canterbury. C'est ensuite le thomisme, qui a d'ailleurs été constitué comme philosophie officielle de l'Église romaine. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que la différence des églises protestantes, l'Église catholique a une philosophie officielle, n'est-ce pas, qui est le thomisme. C'est ensuite, je crois, la pensée de Scott, la pensée de... Puis alors un certain nombre de doctrines comme celle de Guillaume d'Ockham, mais qui n'ont jamais eu un caractère vraiment officiel à l'intérieur du catholicisme. Alors quand on parle de philosophie protestante, il y a déjà un premier problème parce que les confessions protestantes sont multiples. Il y a, si vous voulez, la philosophie des luthériens, la conception du monde des luthériens, il y aurait la conception du monde des anglicans, celle des réformés, celle des évangéliques. Et je crois même que si je voulais être très complet, il faudrait même encore faire des distinctions. D'autre part, en ce qui concerne maintenant le problème que j'ai abordé, je l'ai plutôt abordé du point de vue de ce qu'on appelle la philosophie chrétienne réformée. Alors cette philosophie chrétienne réformée a fait son apparition à un moment précis de l'histoire de l'Église. La philosophie chrétienne réformée est une invention qui a surgi dans l'esprit de théologiens hollandais à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il est probable que le fondateur de la pensée chrétienne réformée ou de la philosophie réformée, c'est le théologien néerlandais Abraham Kuyper, qui a été pasteur de l'Église réformée, qui a fondé l'université d'Amsterdam, qui a été également un homme politique très important, là, on peut dire pratiquement le fondateur de la Hollande contemporaine, et qui a été également le fondateur du parti calviniste hollandais. C'est Abraham Kuyper qui a fixé les principaux concepts de ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis Christian Reformed Philosophy, n'est-ce pas ? Et cette philosophie réformée s'est ensuite développée au début du XXe siècle, avec des œuvres comme celle de Hermann Bavinck, avec des œuvres comme celle de Valentin Epp, et puis alors surtout à partir de 1920-1930, avec ce qu'on appelle en Hollande les grands philosophes réformés, comme Vollenhoven, Dooyverde, Van Til, Stoker en Afrique du Sud, et un certain nombre de disciples de ces grands philosophes canadiens, américains et même allemands, enfin très exactement autrichiens, parce que en Autriche il y avait tout un mouvement réformé qui avait été en quelque sorte constitué par le grand dogmaticien austro-hongrois Joseph Boatek, qui appartenait à ce mouvement réformé. Alors, quand on parle de philosophie réformée, évidemment, on parle d'une réalité, encore une fois, qui est récente, n'est-ce pas ? La philosophie réformée, cette Christian Reformed Philosophy, qu'on appelle en Hollande, n'est-ce pas, Weisbereter Wetzide, cette philosophie réformée représente un courant récent. Alors, l'une des critiques que la philosophie réformée adresse à la philosophie du catholicisme romain, et en particulier au thomisme, l'une de ces critiques, la critique, je crois d'ailleurs, principale, primordiale, porte précisément sur le motif nature-grâce. En effet, je crois qu'il suffit de prendre n'importe quel manuel de théologie catholique, classique, il suffit de prendre n'importe quel texte officiel, édité ou publié au Vatican, ou prendre n'importe quel manuel de philosophie thomiste, pour s'apercevoir que le catholicisme considère qu'il y a deux types de vérités. Il y a les vérités que l'homme peut atteindre par la raison seule. En particulier, toutes les vérités scientifiques sont de cet ordre-là. Vérité scientifique, vérité anthropologique, par la raison seule, je peux connaître l'homme comme animal politique, l'homme comme animal raisonnable, l'homme comme animal capable d'amitié, capable de constituer des groupes. Et même par la raison, ceci est défini formellement par le premier concile du Vatican, je peux atteindre Dieu comme premier principe et cause de l'univers, ce qui implique qu'il y a, du point de vue catholique romain, des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Il y a même très exactement 5 voies par lesquelles la raison peut trouver Dieu par ses propres forces. Bon, ceci, si vous voulez, relève très exactement la position thomiste. Bon, alors, à cet ordre de vérité naturelle succède avec la grâce, avec la foi, un autre ordre de vérité qui est l'ordre surnaturel. Cet ordre surnaturel ne dépend en aucune manière de l'ordre naturel ou de ce qui est connu par la raison. Cet ordre surnaturel est donné par Dieu, gratuitement. C'est la foi qui est l'organe de perception des vérités surnaturelles. Et c'est l'Église qui est garante de l'ensemble de ces vérités, animée qu'elle est, par l'Esprit Saint. Bon, voilà en gros, si vous voulez, comment s'articule la théorie catholique de la vérité avec donc deux vérités, deux types de vérités, les vérités naturelles et les vérités surnaturelles, la nature et la grâce. Alors, le catholicisme tente à présenter la synthèse de ces deux vérités. La formule thomiste classique est la suivante, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'accomplit. Bon, d'autre part, dans la philosophie thomiste, les vérités naturelles elles-mêmes se présentent à l'intérieur, le plus souvent, de grands ensembles théologiques, comme, par exemple, la somme de théologie, ou le contrat de gentillesse de Thomas d'Aquin, ou les questions disputées de Thomas, qui sont le plus souvent des questions d'origine théologique. Alors, on peut donc dire que la philosophie catholique est spécifiée par ce motif nature-grâce. Kuiper, Deuwerd, Vollenhoven et les philosophes réformés ont compris de cette façon-là la philosophie du catholicisme. Et ils ont adressé à cette philosophie la critique suivante. C'est que la Bible nous interdit de poser l'existence de vérités qui ne seraient que naturelles, qui relèveraient de la simple raison. Alors les philosophes réformés qui ne sont pas fidéistes, qui ne sont pas illuministes, je tiens à le préciser. Les philosophes réformés présentent dans leurs livres généralement une introduction au problème de la raison qu'on appelle techniquement critique transcendantale de la pensée théorique. C'est une critique qui est un peu semblable à celle de Kant, mais avec la différence suivante, c'est que cette critique vise à montrer que la raison dépend toujours d'un motif religieux fondamental dissimulé et que l'homme qui pense, c'est l'homme en totalité qui pense. La raison humaine étant en quelque sorte dans l'exercice qu'elle réalise de toutes les facultés de l'entendement, animée par un motif religieux. Autrement dit, d'un point de vue catholique, on peut connaître la vérité sans avoir la foi. On peut accéder à quantité de vérité naturelle indépendamment de la foi. Kuiper et Deuwerd pensent au contraire que la révélation biblique est indispensable à quiconque veut connaître la vérité de n'importe quel être appartenant au monde. La foi est nécessaire. Pourquoi ? Parce que la raison pure n'existe pas, parce que la pensée pure n'existe pas, parce que toute pensée est nécessairement soumise à un motif religieux. Et il faut donc que le motif religieux qui fonde et accompagne la philosophie chrétienne soit un motif biblique. C'est la raison pour laquelle les philosophes réformés ne cessent pas de rappeler constamment au cours de leurs analyses que c'est le motif religieux de la Bible qui est le fondement ultime, transcendantal, transcendant même de toute analyse théorique. Alors, cette position qui est celle de Kuiper et qui est celle de Deuwerd, je la crois personnellement biblique. Ici, par exemple, nous avons tout de même l'autorité du psaume 36 qui nous dit « Car c'est en toi, ô Dieu, qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et d'autre part, je pense que cette position qui est celle de Kuiper et qui est celle de Deuwerd est une position qui est tout à fait dans la ligne de la philosophie augustinienne. En effet, du point de vue augustinien, la foi est la condition de l'intelligence. Les augustiniens du XIIIe siècle n'ont jamais cessé de citer face aux philosophes thomistes la fameuse parole de l'Ancien Testament « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». C'est une parole qu'on trouve constamment cité dans le corpus augustinien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'augustinisme chez Thomas, mais il me semble, et là je crois que les travaux par exemple de M. Gilson sont formels sur ce point-là, n'est-ce pas, je crois, il suffit de lire l'esprit de la philosophie médiévale et sa magnifique introduction au thomisme, il me semble qu'il y a dans la philosophie catholique deux types de sensibilité, il y a la sensibilité augustinienne, il y a la sensibilité thomiste. Le thomisme pense que l'homme peut, par la raison, constituer toute une sagesse naturelle sans la révélation, sans les Écritures. Les Augustiniens ne le pensaient pas, ils ne l'ont jamais pensé. Dooyverde et Kuiper, en édifiant leur critique de la raison, n'ont fait finalement qu'approfondir un motif qui est un motif augustinien. Je crois qu'il y a une parenté profonde entre la pensée réformée, entre cette Christian Reformed Philosophy, comme on l'appelle aux États-Unis ou au Canada, et d'autre part, l'augustinisme. Il y aurait des différences, bien sûr, mais malgré tout, ces différences sont secondaires. Autrement dit, pour conclure sur ce point, je crois qu'il y a deux philosophies de la raison chrétienne. Il y a d'une part ce que j'appellerais le système augustinien calviniste, qui maintient l'idée selon laquelle, en toute analyse théorique, la foi est nécessaire du côté du sujet pensant pour qu'il atteigne la vérité. C'est la position qui est celle d'Augustin, c'est la position qui, au XIIIe siècle, est celle de Saint Bonaventure, c'est la position qui, au XIIIe siècle, est également celle de Jean Peckham et de Matthieu d'Aquasparta. Face à l'augustinisme, il y a la pensée thomiste qui considère qu'il y a deux ordres de vérité et que le premier ordre ne dépend que de la raison. À ce sujet, d'ailleurs, il y a, je le signale, un certain nombre de points très importants qui sont vulgarisés, si vous voulez, par Francis Schaeffer dans son livre Escape from Reason, n'est-ce pas, Démission de la raison. Précisément, Schaeffer commence immédiatement par montrer quel est le diagramme de la pensée thomiste, comment les choses ont évolué jusqu'à la Renaissance et quelle est la différence, hein, c'est je crois le début du chapitre 2, entre la pensée thomiste et la pensée calviniste, ou la pensée de la réforme. Alors il y aurait d'ailleurs, j'indique un certain nombre de problèmes, il y aurait par exemple à examiner le problème de Luther. Vous remarquerez que Luther, il est un peu entre Thomas et Calvin dans ce domaine-là, n'est-ce pas ? Luther, c'est encore un homme qui accepte le système nature-grâce. Par contre, dans la pensée des réformateurs, c'est Calvin qui vraiment, je crois, est en dehors de cette problématique nature-grâce qui est vraiment totalement en dehors d'elle. Alors, je terminerai, n'est-ce pas, pour répondre à votre question. Est-ce que la Bible nous parle de la nature et de la grâce, ou est-ce que la Bible nous parle de la création, de la chute et de la rédemption ? C'est ça le problème. Je crois que c'est l'unique problème, si vous voulez, dans le dialogue œcuménique avec les catholiques, n'est-ce pas ?
Il y a une question que je lis, certains penseurs font remonter les sources de la pensée moderne à partir de Descartes à la pensée de Luther. L'opposition entre raison et foi, qui est caractéristique de la pensée réformée, aurait préparé le cogito de Descartes qui, au lieu de fonder la philosophie sur l'être extérieur au sujet, la fonde sur le sujet pensant. Ceci aurait ensuite débouché dans l'idéalisme du XIXe siècle, père des idéologies matérialistes. Pourriez-vous commenter cette opinion ? Si elle est fondée, ne pourrait-on dire que la pensée réformée a finalement des responsabilités dans l'éloignement entre la pensée moderne et Dieu ?
Oui, alors je vais peut-être résumer cette question qui est assez longue. Le problème donc c'est de savoir si l'opposition luthérienne entre la raison et la foi ne serait pas finalement à l'origine de l'idéalisme moderne. Bon. Alors, tout d'abord, je crois que c'est une excellente question. Il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de points qu'il faut établir. C'est que, pour être strict, si vous voulez, la pensée réformée à laquelle vous vous référez, c'est la pensée de Calvin. Je veux dire par là que, si vous parlez de pensée réformée, hein, le terme réformé s'applique aux églises et calvinistes, aux théoriciens calvinistes, aux philosophes calvinistes. Maintenant, peut-être que vous auriez écrit plutôt, dans ce cas-là, pensée de la réforme. Et effectivement, l'initiateur de la réforme, c'est Luther. Bon, alors, la question qui m'est posée est une question qui a été traitée, d'ailleurs, systématiquement par Jacques Maritain dans son célèbre livre « Trois réformateurs », Luther, Descartes, Rousseau. N'est-ce pas ? C'est une question donc qu'on peut couvrir de l'autorité du grand philosophe catholique français, Jacques Maritain, puisque c'est exactement la thèse de Maritain. Maritain pensait que le subjectivisme de Luther, sa conception de l'intériorité, du sujet, du moi, opposé donc à la raison des thomistes, des scolastiques, que cette subjectivité a engendré Descartes, qui lui-même a engendré la philosophie du XVIIIe siècle, et puis Kant. Il ne faut pas oublier que Kant est luthérien, d'ailleurs. On n'est même pas obligé de passer par Descartes, à la limite, n'est-ce pas ? Et c'est précisément cette pensée kantienne qui, interprétée ensuite par Fichte, par Schelling, par Hegel, aurait donné naissance à l'humanisme moderne athée. Alors je dois dire d'ailleurs que cette thèse n'est pas exactement celle du père de Lubach, n'est-ce pas ? Le père de Lubach a traité des sources de l'humanisme moderne. Il parle beaucoup de Kant, il parle beaucoup de Nietzsche, il parle beaucoup de Hegel, de Feuerbach, mais il ne remonte pas jusqu'à Luther. Maritain, lui, n'hésitait pas à remonter jusqu'à Luther. Alors c'est une thèse également qu'on trouve dans tous les livres de Claude Trémontant. Si vous lisez les livres de Claude Trémontant, vous apercevrez qu'il y a toujours dans ses livres un dernier chapitre qui porte, n'est-ce pas, sur Luther, père du subjectivisme moderne, l'ennemi de la raison. Bon, alors là, je crois qu'il faut serrer le problème. Premièrement, y a-t-il une opposition entre la raison et la foi chez Luther ? Je dirais que tout dépend ce qu'on entend par opposition de la raison et de la foi. Si l'on entend que la raison naturelle, la raison de l'homme naturel, donc, en reprenant la problématique augustinienne, la raison de l'homme irrégénéré est opposée à la foi, alors, oui, chez Luther, il y a une opposition de la raison et de la foi. Et comment ? Je dirais qu'il est probablement celui qui a été le plus loin dans ce domaine. La raison est la prostituée du diable. Il faut lui jeter de la merde au visage. Hein ? Je cite des formules de Luther qui sont des formules classiques, terribles. Mais encore une fois, quelle raison vise Luther ? C'est là, oh ! Jacques Maritain, que j'aime pourtant beaucoup, n'est-ce pas ? C'est là que j'accuserais Maritain d'une incompréhension fondamentale. La raison condamnée par Luther, ce n'est pas la raison créationnelle. Ce n'est pas la raison qui sort des mains de Dieu. Ce n'est pas la raison logique, théorique, bien créée, qu'on ne saurait dévaluer. C'est la raison pécheresse, fourvoyée dans l'erreur, victime d'un motif apostat. Et Luther pensait, ceci est énoncé par lui dès ses annotations aux sentences et dès ses premiers commentaires d'ouvrages augustiniens, Luther pensait que réellement cette raison scolastique, donc aristotélicienne, platonicienne, cette raison qui empruntait aux philosophes grecs, n'était pas conforme aux données de la foi. Mais J'ajoute ceci, Luther croyait à une régénération possible de cette raison. Cette raison, elle peut être régénérée. Elle peut être sauvée. Elle peut être baptisée. Bien. Luther a écrit en 1536, il a rédigé en 1536 une disputation qui s'appelle, une question disputée qui s'appelle « Question disputée sur l'homme ». Or, dans cette question disputée sur l'homme, on trouve la proposition suivante, c'est la proposition 4. La raison est un bien suprême, elle est en nous quelque chose de divin. Voilà vraiment un texte auquel on ne s'attendrait pas, n'est-ce pas, en partant du Luther, plus ou moins du portrait de Luther brossé par Jacques Maritain. Et pourtant, c'est Luther qui a écrit « La raison est en nous quelque chose de divin ». Donc, je crois que quand Luther utilise Vernunft ou encore Ratio, je crois qu'il faut faire attention. Quelle raison désigne-t-il ? Est-ce la raison de l'homme perdu ? Est-ce la raison de l'homme régénéré ? Est-ce la raison de l'homme pécheur ? Est-ce la raison de l'homme qui s'est soumis à la Bible et a rencontré Dieu ? C'est là tout le problème. Et je crois que c'est là qu'on atteindrait, me semble-t-il, il faudrait faire toute une analyse, le problème présent chez Luther du motif qui anime une pensée philosophique ou théologique. Luther a adressé à la philosophie scolastique un certain nombre de critiques, car il pensait que cette philosophie scolastique n'était pas compatible avec la foi. Il pensait en particulier que le Dieu, premier moteur de la théologie naturelle, n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu vivant. Mais a-t-on le droit pour cela de dire, comme le prétendent certains philosophes catholiques, que Luther refusait toute preuve de l'existence de Dieu ? Certainement pas. Dans ses propos de table, il en propose 3 preuves. Bon, d'autre part, on comprendrait mal, par exemple, qu'un homme comme Calvin, qui a quand même été à l'école de Luther, ait construit dans ses œuvres théologiques une telle éloge de la création, de la belle création de Dieu. Il y a des pages splendides de Luther sur la belle création de Dieu, mais il y a également, chez Calvin, quantité de pages qui portent sur ce thème. Étienne Gilson disait que le fameux éloge de la nature déchue, augustinien, ne se trouve pas chez Luther et chez Calvin. Je crois que c'est une erreur. Il y a de nombreuses pages qui contiennent ce thème de l'éloge de la nature humaine déchue. C'est un thème de la cité de Dieu de Saint-Augustin, mais c'est également un thème luthéro-calviniste. Alors je conclurai en disant, n'est-ce pas, que la thèse de Jacques Maritain, la thèse de 3 réformateurs, elle me paraît erronée. Il me semble que si il y a une origine de l'humanisme moderne, cette origine, elle n'est pas à trouver dans, enfin de l'humanisme moderne au sens, n'est-ce pas, de l'humanisme sans Dieu, de l'humanisme athée ou de l'humanisme immanentiste. Elle n'est pas, je crois que cette origine n'est pas à trouver dans le motif luthérien. Luther n'a pas dévalué la raison. Il a lutté contre une raison qu'il ne croyait pas conforme au fondement de la foi. Mais quand il rencontre la raison dans son expression créationnelle biblique, Luther l'accepte et il la considère même comme de source divine. Luther ajoute d'ailleurs dans sa disputation sur l'homme que Dieu non seulement n'a pas infirmé la raison, mais après la chute, dit Luther, il a confirmé la raison dans sa fonction de compréhension du monde. C'est, je crois, la proposition 12 ou 13 de la disputation sur l'homme. Donc on peut voir, en suivant ce texte, que Luther n'a pas grand-chose à voir avec la figure habituelle qu'on présente de lui, irrationalisme, fidéisme, dévaluation de la raison, etc. Alors maintenant, quelle est l'origine de l'humanisme moderne ? Je crois pour ma part que cet humanisme moderne,
il a été façonné par le motif nature grasse. Je n'en rends pas la pensée catholique responsable, n'est-ce pas ? Le motif nature grasse, si vous voulez, a animé quantité de penseurs catholiques comme protestants. Encore une fois, je crois que si l'on voulait vraiment bien voir quelle est la source, l'origine de l'humanisme moderne, il faudrait se demander, la Bible nous parle-t-elle de création, de chute, de rédemption, ou nous parle-t-elle des rapports entre la nature et la grâce ? Je crois que ça, c'est ce qui est fondamental. C'est-à-dire, si on veut édifier une philosophie en Christ, faut-il reprendre le problème nature-grâce ou au contraire dépasser ce problème nature-grâce en partant du motif création-chute-rédemption ?
Qu'est-ce que l'illuminisme ? Qu'est-ce que la pensée illuministe ? Quelle est la différence avec la pensée réformée ?
Oui, dans ma conférence, j'ai fait une référence à l'illuminisme au XVIe siècle, n'est-ce pas ? Je me suis référé ici à la doctrine de Münzer ou de Jean de Leyde, c'est-à-dire à la doctrine des anabaptistes. Les anabaptistes pensaient que Dieu illumine directement l'homme indépendamment de l'enseignement de la parole de Dieu, indépendamment du texte biblique. Alors il y avait donc un problème au XVIe siècle, il y a d'ailleurs eu, vous le savez, un conflit très violent au niveau doctrinal entre Luther, d'une part, et les anabaptistes et les illuministes. Alors évidemment, il y a des illuminismes très différents, on ne peut pas simplement les limiter à l'anabaptisme du XVIe siècle. Si vous voulez être renseigné sur toutes les tendances de l'illuminisme, vous avez l'admirable livre intitulé « Chrétien sans église » de Leszek Kolakowski, n'est-ce pas, le philosophe polonais, qui a montré, enfin, qui a fait toute une enquête philosophique sur les chrétiens, les communautés chrétiennes qui existaient en dehors des grandes églises officielles à la fin du XVIe et surtout pendant tout le XVIIe siècle. Alors il en a fait un livre admirable, n'est-ce pas, « Chrétien sans église », et quand on a lu le livre, on sait vraiment absolument tout sur l'illuminisme, sur le devenir de l'illuminisme à partir, si vous voulez, des sectes anabaptistes du XVIe.
L'être dont l'homme est le berger, selon Heidegger, peut-il être le berger ou le bon berger dont parle la Bible ?
Oui, dans cette question, il y a peut-être une ambiguïté dans la mesure où le berger, pour Heidegger, n'est-ce pas, c'est l'homme. L'homme est gardien de la vérité de l'être. Alors, évidemment, c'est tout le contexte du second Heidegger là, qui devrait être abordé. La philosophie de Heidegger s'est développée donc d'abord comme une analytique existentielle et Heidegger a opéré dans les années 29-30 un retournement de sa philosophie en direction des problèmes d'ontologie fondamentale. La première philosophie de Heidegger était évidemment une philosophie ontologique, elle avait une vocation ontologique, mais dans le deuxième mouvement de sa philosophie, Heidegger se tourne du côté de l'être et essaie de nous montrer quel rapport il y a entre l'homme et la vérité, conçu cette fois-ci sous l'angle des initiatives que l'être prend vis-à-vis de l'homme. Et alors précisément dans cette lettre sur l'humanisme, qui était un ensemble de réponses apportées à une lettre que lui avait adressée le philosophe français Jean Bouffray, Heidegger avait montré à quelles conditions on pouvait, sur les bases de sa philosophie, construire un humanisme. Quelques années plus tard, n'est-ce pas, Sartre écrira « L'existentialisme est un humanisme » et en un certain sens, si vous voulez, le texte de Heidegger, qui va précéder, je crois, peut-être le texte de Sartre de quelques mois, je n'ai plus exactement les dates en tête, je crois que « L'existentialisme est un humanisme » de Sartre, c'est de 1947, et la lettre sur l'humanisme de Heidegger, ça doit être dans ces années-là aussi, peut-être 1946, il faudrait vérifier les dates. Enfin, je crois que la lettre de Heidegger doit précéder de quelques mois le texte de Sartre. On peut dire, si vous voulez, donc, il y a là un dialogue qui s'est institué entre les deux philosophes. Leur existentialisme était très différent. Si vous voulez, Sartre est resté malgré tout un phénoménologue. Il est resté fidèle à une certaine phénoménologie. Heidegger a commencé par la phénoménologie et après avoir effectué son virage, son tournant, des années 30 et 40, il n'est pas resté fidèle, évidemment, au canon strict de la méthode phénoménologique. Alors Sartre a lui-même abandonné la phénoménologie, mais bien plus tard, n'est-ce pas, pour d'autres raisons. Alors maintenant, je reprends le problème du berger. Donc, si vous voulez, le thème de l'homme berger de lettres signifiait, dans la lettre sur l'humanisme de Heidegger, une sorte de soumission de l'homme aux injonctions venant de l'être. L'homme était berger de l'être, donc ayant la garde du message que l'être lui délivre. Alors, peut-il être le berger ou le bon berger dont parle la Bible? Alors que l'homme soit le bon berger dont parle la Bible, je crois que c'est exclu du point de vue de la doctrine néo-testamentaire, n'est-ce pas? Maintenant, bien sûr, que la vérité se manifeste dans un homme, qu'elle soit portée par un sujet qui, dans l'histoire, incarnerait le vrai, la vérité. Ceci, évidemment, n'est pas du tout exclu, je veux dire, du système biblique. Je crois, par contre, que c'est tout à fait exclu dans le système de Heidegger, n'est-ce pas? Dans la mesure, si vous voulez, où l'être, la vérité de l'être, elle ne peut pas, chez Heidegger, être incarnée et portée dans cet étang particulier qu'est l'homme. Elle ne peut pas être incarnée même dans cet étang privilégié qu'est l'homme. L'être se donne, mais l'être se retire, pour Heidegger. L'être n'est jamais captif d'une quelconque incarnation.
Vous avez dit que la racine de l'homme a été remplacée dans la société moderne par l'idéologie marxiste. Quelle est cette racine ? Comment voyez-vous le problème de classe dans les sociétés? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu cette inégalité dans la vie sociale? Comment voyez-vous le problème des gènes innés que pose le groupe de la nouvelle droite?
Je n'ai pas exactement dit que dans la société moderne, l'origine, la racine, est remplacée par l'idéologie marxiste. Ce que j'ai dit exactement, c'est que l'homme, l'humanisme immanentiste occidental, a des tendances historicistes. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'historicisme, à la suite, évidemment, dans la grande suite, à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui donne en quelque sorte l'origine, qui est l'origine de cet historicisme, qui en est d'ailleurs l'origine philosophique proche, mais je crois qu'il faudrait remonter à tout le détail de la conception philosophique de l'historiographie du XVIIIe siècle pour comprendre comment cela a abouti à Hegel et comment, à partir de là, le grand mouvement de l'historicisme a été lancé. Alors l'historicisme, voilà un terme peut-être un peu technique, la formule de l'historicisme est la suivante: tout est dans l'histoire. Il n'y a pas de supra-monde ou d'arrière-monde, si vous voulez, il n'y a pas un monde vrai qui serait au-dessus de nous ou par derrière nous, il n'y a plus de nous-mêmes qu'anciens ou de monde intelligible, il n'y a plus quelque chose qui serait en arrière des phénomènes historiques et qui conditionnerait l'histoire, il n'y a que de l'histoire, il n'y a que du devenir, toutes les sociétés, toutes les institutions sont en devenir, et vous le voyez, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent parmi vous un peu la phénoménologie de Hegel, que la formule radicale de l'historicisme va encore plus loin que la lettre de Hegel, n'est-ce pas? Si vous lisez, par exemple, le très beau livre de Jean Hippolyte, Logique et existence, qui est une sorte de commentaire de la philosophie de l'histoire et de la philosophie de la conscience de Hegel, vous vous apercevrez que chez Hegel, le mouvement de l'histoire est encore déterminé par l'esprit absolu. Alors que dans l'historicisme, c'est non seulement l'esprit qui s'est fait histoire, mais l'esprit qui n'est qu'histoire. La formule, si vous voulez, de l'historicisme absolu, on la trouverait dans cette proposition de Von Ranke, tout est dans l'histoire, ou encore dans les propositions qui ont été celles, par exemple, d'un philosophe comme le grand philosophe italien Benedetto Croce, qui représente vraiment l'historicisme accompli, l'historicisme mené jusqu'au bout. Alors, dans la société moderne, la racine de l'existence humaine à laquelle je me suis référé dans mon texte, peut-elle être remplacée par cette idéologie marxiste? Je crois pour ma part que les marxismes aujourd'hui sont assez diversifiés. On peut cependant, si vous voulez, les réunir tous dans un postulat fondamental qui les unit, qui les réunit, qui les rassemble, c'est le postulat matérialiste. Il me semble, si vous voulez, que l'essence du marxisme, qu'on le considère à Cuba, en Chine, en Union soviétique, dans les pays de l'Est, ou même en Yougoslavie, ou même dans certains pays arabes qui ont adopté une idéologie de type marxiste pour présider au développement de la société, c'est tout de même le postulat matérialiste. Et cette idée que c'est la production économique qui détermine le devenir des sociétés. La production, les rapports de production et les rapports de classe qui sont eux-mêmes issus de ces rapports de production, de ces formes de production. Alors maintenant, peut-on imaginer que la racine de l'existence humaine puisse un jour être remplie, saturée par le postulat matérialiste? Cela, évidemment, je ne le pense pas du tout. Il me semble que le marxisme est aujourd'hui une sorte de grande encyclopédie du savoir qui comprend un peu toutes les sciences, toutes les connaissances, qui comprend aussi, ce qui est fondamental, toute notre histoire. À la limite, on pourrait presque dire que la conscience historique, c'est la conscience marxiste, ni plus ni moins. Mais précisément, ce que j'ai essayé de montrer à la fin de l'exposé, c'est que la racine de l'existence humaine, elle est supratemporelle. Elle est visée de l'origine absolue. Elle ne se maintient pas, elle ne se cantonne pas à l'histoire. Et précisément, il me semble que face à la nouvelle réflexion qui naît en philosophie depuis 5 ans, le marxisme m'apparaît un peu comme une philosophie, je ne dirais pas vieillie ou désuète, mais comme une philosophie déjà assez ancienne, une philosophie typique du XIXe siècle, où l'homme est réfléchi par des instances qui se situent toujours au-dessous de lui. Je crois qu'en cette fin du XXe siècle, nous avons plutôt tendance, nous, à regarder au-dessus. En précisant, n'est-ce pas, je crois que l'homme de la fin du XXe siècle, confronté évidemment à tous les problèmes qui se posent à lui, c'est un homme qui aspire à Dieu, qui tend à Dieu. C'est un homme qui aspire à retrouver quelque chose qui donne à sa vie un sens absolu. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et ce n'est pas limité à ça, n'est-ce pas? Il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, la philosophie matérialiste, pour ne parler que d'elle, la philosophie matérialiste, ce qui est caractéristique, c'est qu'elle devient aujourd'hui une véritable scolastique. Elle n'est plus créatrice. Sur la matière, à la limite, il n'y a plus rien à dire maintenant. On a tout dit. On a été jusqu'à dire qu'elle était animée par un esprit. Bon, alors à partir de là, vous comprenez, hein? Voilà, il n'y a vraiment plus rien à dire dessus. On a vraiment dit ce qu'on avait à dire, et il me semble que c'est une grande leçon pour l'homme du XXe siècle que de voir précisément qu'il est impossible en philosophie de prendre un aspect du réel et de conduire une analyse unilatérale. Le réel, très vite, proteste, conduit la pensée à une antinomie et permet l'éclatement de la pensée dans une autre direction. Ça, je crois que c'est la grande loi de la pensée humaine. Si on se limite, si on concentre le réel sur un de ses aspects, par exemple, si on concentre l'analyse philosophique sur les substrats matériels de l'existence, tôt ou tard, on provoque une réaction qui sera un spiritualisme échevelé, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Et je ne dirais pas d'ailleurs que cela coïncide nécessairement d'ailleurs avec les intérêts du christianisme. Car le christianisme, c'est le système biblique. Ce n'est pas nécessairement une réaction spiritualiste. La réaction spiritualiste peut préparer, favoriser une adhésion au christianisme, mais elle n'est pas encore adhésion au christianisme.
Oui, alors il y a aussi une question sur la nouvelle droite. La nouvelle droite, elle est fondamentalement antichrétienne, hein? Ce que j'aimerais souligner, c'est que il m'arrive, n'est-ce pas, très souvent, on me pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité un jour, par exemple, pour les religieux en général,
de s'allier avec la vision hiérarchique du monde que propose la nouvelle droite, que proposent par exemple les groupes dirigés par Alain de Benoist. Mais malgré tout, je crois qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle droite, elle est fondamentalement antichrétienne. Elle est même peut-être, je crois, le mouvement le plus antichrétien qui puisse exister, dans la mesure où l'axiome, le postulat fondamental de la nouvelle droite, c'est de dire « la Bible est un mauvais livre, si la Bible n'avait pas existé, nous serions tous beaucoup plus heureux hein ». C'est quand même fondamentalement ce que la nouvelle droite dit en ajoutant l'idée de création, l'idée de la création de l'univers par Dieu, c'est l'erreur philosophique absolue, reprenant en cela, n'est-ce pas, le fameux axiome de Fichte. Alors, il me semble évidemment que on ne peut guère imaginer la moindre collusion entre cette nouvelle droite et la pensée judéo-chrétienne. La nouvelle droite, elle est caractérisée précisément par le rejet absolu du motif création, chute, rédemption, de la pensée biblique. Vous remarquerez d'ailleurs que le marxisme représente une altération du motif création, chute, rédemption. Mais le marxisme n'a pas, vis-à-vis du christianisme, le même rapport que la nouvelle droite. Vous remarquerez, n'est-ce pas, que le marxisme, comme disait Emmanuel Mounier, c'est un peu une hérésie chrétienne. Enfin, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, sur les origines judéo-chrétiennes de la pensée marxiste. Je veux dire, les marxistes, avec leur conception de l'action de l'homme dans l'histoire, sont encore des judéo-chrétiens. Au contraire, dans la théorie de la nouvelle droite, la référence au père fondateur est grecque, mais en tout cas, elle n'est ni chrétienne ni biblique. La Bible, c'est surtout, de leur point de vue, le livre à, sinon ne pas lire, du moins oublier.
Bon, une autre question, l'homme peut-il être heureux sur Terre, et si oui, comment? Évidemment, là, c'est un peu un sujet de baccalauréat, à la limite, on pourrait donner ça terminal A ou terminal B. Non, disons que c'est une question assez générale. Je dirais, n'est-ce pas, que la Bible... Si on me demande une réponse biblique, je dirais que la Bible donne l'esprit dans lequel l'homme peut être heureux, mais elle ne donne pas le programme. Je pense qu'on ne peut pas tirer de la Bible, comme d'ailleurs on le fait trop souvent, et avec une violation caractéristique de toutes les règles d'exégèse les plus élémentaires, on ne peut pas tirer de la Bible un Jésus révolutionnaire, un Jésus zélote, ou un Jésus socialiste, ou encore un Jésus idéaliste couleur de rose, couvrant l'action des tout-puissants. Alors, dans la Bible, on trouve un certain esprit. C'est l'esprit qui est, en quelque sorte, engendré par le motif religieux fondamental qui anime la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Par contre, bien sûr, dans la Bible, on ne trouve pas de programme politique et économique. Le programme, c'est l'homme qui doit l'inventer.
Bon alors, dernière question. Pourriez-vous préciser le point de vue suivant, le point suivant, pardon. Est-ce que pour la pensée issue de la Réforme, toute réflexion philosophique non illuminée par la foi est nécessairement vouée à l'échec? Alors, cette question est traitée systématiquement, je le signale pour ceux qui voudraient faire un peu d'études particulières de texte, par Deuyverd, en particulier à la fin du premier volume de sa philosophie, et c'est également une question qui est traitée systématiquement dans toute la théorie de la connaissance, c'est-à-dire la deuxième partie du deuxième volume de sa philosophie, en anglais intitulé « A New Critic of Theoretical Thought ». Et c'est également une question qui a été traitée systématiquement par Cornelius Van Til dans le premier volume de sa philosophie intitulé « A Survey of Christian Epistemology ». Alors, toute réflexion philosophique non illuminée par la foi est-elle nécessairement vouée à l'échec? Je pars ici de la pensée biblique afin de bien cerner mon sujet. La Bible nous enseigne que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Si Dieu est le créateur, il est l'éternel, un et multiple, trinité, non corrélatif d'un multiple ou d'une unité extérieure à lui. Si l'homme pouvait, en toute autonomie et sans la foi, expliquer le monde, expliquer le monde. Sans Dieu, Dieu nécessairement devient corrélatif d'un être qui, en dehors de lui, peut connaître la vérité sans lui. Dieu n'est plus créateur. Alors le texte que je vais vous citer pour répondre à cette question, c'est un texte de Cornelius Van Til, A Christian Theory of Knowledge, page 2. Dieu possède l'acéité. Il peut donner une explication complète de sa personne. Il ne peut jamais cesser de constituer le point de référence ultime au discours de l'homme. Sinon, Dieu et l'homme deviennent dans ce cas des partenaires d'une commune tentative d'expliquer la réalité. En dernière analyse, les faits alors ne sont pas ce qu'ils sont en vertu du dessein de Dieu. Autrement dit, par ta lumière, ô Dieu, nous voyons la lumière, car c'est en toi qu'est la source de la vie, le psaume 36, je m'y réfère et réponds à cette question. Effectivement, une pensée philosophique non illuminée par la foi est nécessairement vouée à l'échec.